Bon, si vous voulez bien, je vais commencer. Donc, au cours des 4 ou 5 dernières années, j'ai fait une série de cours sur la condensation de Bose-Einstein et sur les gaz quantiques dégénérés. C'est un sujet qui se développe de manière tout à fait spectaculaire, mais qu'en plus l'étude des gaz de Fermi dégénérés. Et il y aurait certainement encore plusieurs années de cours à faire sur les gaz quantiques dégénérés, mais comme c'est en fait ma dernière année de cours, il m'a semblé plutôt que d'en faire un de plus sur ce sujet, il m'a semblé plus intéressant de faire procéder à une sorte de rétrospective de ce domaine de recherche, du domaine de recherche de la physique atomique, de la matière et rayonnement, et d'essayer de dégager un certain nombre d'idées générales et de perspectives. Donc ça a été donc le sujet que j'ai choisi pour cette dernière année d'enseignement au Collège de France, qui est donc le titre est Interaction atome-photon, bilan et perspective. Alors, je voudrais, dans cette première séance, essayer de donner un petit peu le but général de cette série de cours, donc 2003-2004. Et ce que je voudrais faire, c'est d'abord présenter un bilan des développements importants qui sont survenus au cours des dernières décennies dans ce domaine de recherche, où on essaye de comprendre, de décrire et d'utiliser les interactions entre atomes et photons. Je voudrais aussi essayer d'analyser l'évolution des idées dans ce domaine, de mettre en perspective des développements qui sont survenus à des périodes différentes et d'essayer de comprendre la genèse des développements qui sont survenus. Enfin, un point important, je voudrais aussi discuter les nouvelles perspectives, les nouveaux domaines de recherche qui semblent s'ouvrir à la suite de ces développements et qui semblent prometteurs. Donc aujourd'hui, je procède à une introduction générale et quand j'ai réfléchi à la manière dont je pourrais classer mes développements, j'ai eu pas mal de difficultés. On peut prendre un ordre chronologique, un ordre thématique. Il m'a semblé plus intéressant aujourd'hui de présenter les développements en essayant de les classer à partir des motivations qui les ont précédées. Qu'est-ce que les gens ont essayé de faire? Pourquoi ils ont essayé de comprendre tel ou tel problème? Pourquoi ils ont abordé tel ou tel sujet? Donc j'ai essayé de vous présenter un classement basé sur ces études et d'expliquer un petit peu de quoi il retourne. Ensuite, il m'a semblé intéressant, avant de commencer à discuter plus précisément de certaines expériences, de donner quelques idées générales, directrices, pour décrire les effets des interactions atomes-photons. Essayer de vous montrer que c'est une bonne réaction au début, qu'on essaye de comprendre quelque chose, d'essayer d'identifier les diverses étapes d'une expérience, préparation, évolution, détection. Essayer de voir l'importance des lois de conservation qui se révèlent jouer un rôle absolument crucial dans tous ces développements. Et aussi essayer de comparer les diverses échelles de temps parce que cette comparaison souvent permet de faire des approximations justifiées. Donc ça sera la deuxième partie donc, du cours d'aujourd'hui. Alors, j'essaie ici de donner un certain nombre de têtes de chapitre. Pourquoi on étudie l'émission et l'absorption de rayonnement par des atomes? D'abord, les photons qui sont émis ou absorbés par les atomes, c'est une source d'information sur la structure et sur la dynamique des atomes. Ceci couvre tout le domaine de la spectroscopie. On regarde la lumière émise ou absorbée et on essaie d'en tirer des informations sur les atomes. Deuxième point, cette lumière qui interagit avec les atomes est également une source de perturbation. Les niveaux d'énergie sont déplacés, sont élargis. Il y a les corrections radiatives qui existent même quand l'atome n'interagit qu'avec le champ qui existe dans le vide du rayonnement. Il faut essayer de comprendre ces perturbations, essayer d'en tenir compte parce qu'elles perturbent les résultats de mesure que l'on fait sur les systèmes. Et il se trouve aussi qu'on peut utiliser ces perturbations de manière positive pour manipuler les atomes. Troisième idée, il me semble, ça c'est quelque chose d'important, il me semble que la physique des atomes des photons donnent des systèmes suffisamment simples, qui peuvent être calculés souvent jusqu'au bout, et qui constituent une sorte de banc d'essai pour élaborer et tester diverses approches théoriques. Je crois que, personnellement, en tout cas, par exemple, toutes les fois que je me suis heurté à un problème où la dissipation joue un rôle important, je reviens toujours au problème de l'émission spontanée, qui est vraiment un système particulièrement pur et simple, où toutes les idées importantes peuvent être dégagées. Quatrième point, les atomes, effectivement, sont des systèmes simples pour tester les théories fondamentales, l'électrodynamique quantique, la mécanique quantique, ensuite tous les développements récents, l'unification des interactions électromagnétiques et faibles, la recherche de correction au-delà du modèle standard. Et, disons, la physique atomique a toujours joué un rôle important pour le tester de manière de plus en plus sévère les théories fondamentales. Autre point important, il me semble que cette physique fournit un cadre simple pour étudier les effets d'ordre supérieur et les méthodes non perturbatives. Un exemple particulièrement important étant les transitions à plusieurs photons, les processus multiphotoniques. Et c'est un système où on peut réellement développer des méthodes d'étude de ces problèmes extrêmement performantes. Ensuite, de manière plus récente, ces interactions se sont avérées être un outil particulièrement puissant pour manipuler les atomes et pour contrôler leur polarisation, leur position et leur vitesse. C'est tout le domaine du refroidissement et du piégeage des atomes par laser. Et enfin, ces interactions permettent de préparer les atomes dans des états quantiques particulièrement intéressants, comme des superpositions linéaires d'états, comme des états intriqués qui ne peuvent pas être factorisés sous forme d'un produit de deux vecteurs d'état, un pour le système 1, un pour le système 2. Donc je vais reprendre maintenant chacun de ces points pour les discuter un peu plus en détail. D'abord, une source d'information sur les atomes. Nous savons que les processus élémentaires d'interaction entre atomes et photons consistent en l'émission ou l'absorption d'un photon d'énergie h nu et passage de l'atome d'un niveau supérieur B à un niveau inférieur A, ou inversement. La conservation de l'énergie implique bien sûr que EB moins VA égale h nu. Et cette relation constitue le principe de la spectroscopie, la mesure des fréquences de la lumière émise ou absorbée permet de déterminer EB moins VA et de reconstruire le diagramme d'énergie. On peut donc identifier les constituants d'un milieu, ça c'est toutes les applications astrophysiques, toutes les informations qu'on a sur les milieux astrophysiques proviennent de l'observation des diverses radiations que ces milieux émettent. C'est une sonde des milieux dans lesquels les atomes se trouvent, on peut mesurer la température, le champ magnétique, la vitesse, et c'est aussi bien sûr l'interprétation précise des spectres constitue un thème des interactions fondamentales qui sont responsables de ce spectre. Alors, la spectroscopie a accompli au cours des dernières décennies des progrès considérables que j'essaye juste de classer ici rapidement. D'abord, il y a des nouveaux types de signaux qui sont apparus. Au lieu d'étudier uniquement le spectre de la lumière émise, on s'est intéressé à étudier la fonction de corrélation du champ électrique et de T plus tau moyen, en dédoublant les paquets d'ondes lumineux en deux, en retardant l'un par rapport à l'autre, en prenant leur intégrale de recouvrement. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie de Fourier, dans laquelle notre pays a été particulièrement actif. Nous avons eu il y a quelques jours un colloque destiné à la mémoire de Pierre Jacquinot, qui a montré l'importance des contributions françaises dans ce domaine. Il y a eu aussi une expérience qui a joué un rôle extrêmement important dans le cours des années 50 et qui a beaucoup intrigué les gens, c'est les corrélations d'intensité, les expériences d'Humphrey Brown et Twiss. La compréhension de ces résultats, de ces expériences en termes de photons, a été, je crois, à l'origine de tout le développement de l'optique quantique telle qu'elle a été formulée la première fois par Roy Glauber aux alentours des années 60, pour relier les signaux de détection à des fonctions de corrélation d'ordre croissant du champ électromagnétique. Évidemment, je n'oublie pas les développements instrumentaux dans les réseaux, les lames minces, les interféromètres, Fabry Perot, qui ont effectivement, il y a eu un progrès spectaculaire, disons, de toute l'instrumentation optique. Aussi, des nouveaux domaines de fréquence ont été abordés. Après la Deuxième Guerre mondiale, après le développement du radar, la spectroscopie radiofréquence micro-ondes, le développement des jets atomiques et moléculaires, la méthode célèbre des franges de Ramsey, tout ceci a constitué, je crois, la renaissance de la physique atomique après la Deuxième Guerre mondiale. Puis, au début des années 50, puis pendant toute cette décennie, il y a eu ici à Paris, dans le laboratoire d'Alfred Kastner et Jean Brossel, le développement des méthodes optiques de la double résonance et du pompage optique qui ont permis de détecter les résonances hertziennes et micro-ondes, non plus par la puissance hertzienne ou radio-micro-ondes absorbées, mais par des méthodes optiques. Il y a eu aussi le rayonnement synchrotron qui a permis d'étendre considérablement la spectroscopie dans les domaines UV et X. Et puis évidemment, il y a eu la révolution introduite par l'apparition des sources laser dans les laboratoires, sources laser de plus en plus compactes, de plus en plus simples à utiliser. Et quelques exemples de leurs impacts. D'abord, ce sont des sources monochromatiques intenses qu'on peut accorder. L'apparition des lasers à colorants accordables au début des années 70 a marqué une étape. Un exemple particulièrement important des résultats obtenus par ces méthodes a été l'étude des isotopes radioactifs, développée en particulier par le laboratoire Aimé-Cotton et en particulier par le regretté Sylvain Lieberman au CERN, la découverte des raies optiques du strontium. Puis, l'importance de la haute intensité des sources laser a permis d'observer toute une série d'effets non linéaires et de créer un nouvel type de spectroscopie qu'on appelle la spectroscopie non linéaire, absorption saturée, transition à plusieurs photons, effet rarement stimulé. Évidemment, l'optique non linéaire a été un domaine entièrement nouveau qui a permis de mélanger des ondes, de générer des harmoniques et d'étendre aux ondes optiques toutes les techniques des ondes radiofréquences et micro-ondes. La possibilité d'avoir des impulsions laser extrêmement brèves dans le domaine de la nanoseconde, puis de la picoseconde, puis de la femtoseconde, a permis de faire ce qu'on appelle une spectroscopie résolue dans le temps, où on perturbe le système avec une impulsion et on le détecte un instant après. Et maintenant, il y a tout un domaine qui s'appelle la femtochimie, par exemple. Et enfin, autre développement beaucoup plus récent, mais qui, à mon avis, va être extrêmement important pour l'avenir, c'est le développement par l'équipe de Ted Hanks à Munich de ce qu'on appelle les peines de fréquence, qui permettent de mesurer de manière absolue la fréquence d'une raie optique et de la comparer à l'étalon de temps qui est fourni par l'horloge à césium. Et enfin, aussi, autre développement spectaculaire, la possibilité maintenant d'avoir sur un montage de table des lasers de très grande puissance, de l'ordre du terawatt, voire du pétawatt, de 10 puissance 15 watts, permettant d'aborder des domaines de recherche entièrement nouveaux. Une grande thématique qui a occupé beaucoup les chercheurs, ça a été de s'affranchir de l'effet Doppler. Dans le domaine optique, d'abord, l'effet Doppler, c'est delta nu sur nu égale V sur C, c'est de l'ordre de 10-6 à la température ambiante, V de l'ordre de 1 million de fois plus petit que la vitesse de la lumière. Dans le domaine de radiofréquence, l'effet Doppler est négligeable. C'est ce qui explique le succès de la spectroscopie hertzienne. Dans le domaine micro-ondes, il est plus important, et il constitue une limite, mais il y a un effet très astucieux qui a été proposé par Dicke en 1950 et qui se révèle toujours utile maintenant, qui permet d'éliminer l'effet Doppler dans le domaine micro-ondes. Quand le développement des lasers est survenu, il a été possible d'exciter un jet atomique à angle droit par un faisceau monochromatique et donc de se débarrasser de l'effet Doppler. Il y a eu toutes les techniques de spectroscopie laser non linéaire, absorption saturée, transition à deux photons sans effet Doppler qui ont permis de l'éliminer ou de le compenser. Et depuis quelques années, il y a maintenant des atomes ultra froids qui ont des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde, voire du millimètre par seconde, et pour lequel l'effet Doppler du premier ordre et même du deuxième ordre devient complètement négligeable. Enfin, dans le domaine gamma, dans le domaine X, il y a l'effet Mossbauer qui est très relié à l'effet Dicke et ce qu'on appelle aussi l'effet Lamb-Dicke qui permet de se débarrasser de l'effet Doppler dans le domaine gamma. Donc ça a été une thématique qui a été poursuivie pendant plusieurs décennies et qui a été couronnée de succès. Maintenant, les atomes, les interactions de temps de photons, source de perturbations pour les atomes. D'abord, il est connu maintenant que les niveaux atomiques, lorsqu'on les éclaire, lorsqu'on éclaire un atome avec un faisceau laser ou un faisceau lumineux ordinaire, ces niveaux atomiques sont élargis et déplacés. Et ces deux effets sont les pendants pour l'atome de ce qui se passe pour les photons. Des photons qui se propagent dans un milieu atomique, leur vitesse de propagation est modifiée et ils sont absorbés. Donc les photons sont perturbés et les atomes aussi. Évidemment, ce sont des effets qui introduisent des corrections aux fréquences de bord de l'atome, dont il faut absolument tenir compte dans les mesures de très haute précision qui sont maintenant possibles, par exemple avec la spectroscopie à deux photons sans effet Doppler. Mais ce qui est intéressant, qui est apparu, disons, dans les les deux dernières décennies, c'est que ces effets perturbateurs peuvent être transformés en un avantage. On peut utiliser des déplacements lumineux dépendants de la position pour piéger des lasers, piéger des atomes dans des faisceaux laser dont l'intensité varie dans l'espace, pour réaliser des miroirs pour atomes avec des déplacements lumineux associés à une onde évanescente, et pour réaliser ce qu'on appelle des réseaux optiques, où on peut ranger des atomes comme dans une boîte à œufs, dans des puits de potentiel régulièrement disposés dans l'espace. Il y a également un domaine de recherche associé à ces perturbations qui a été extrêmement étudié, en particulier dans notre équipe à Paris, c'est comparer les effets perturbateurs d'une excitation optique ou radiofréquence, comme les déplacements lumineux, comme la modification du facteur G d'un atome, avec des corrections qui sont bien connues pour un atome qui est dans le vide absolu, qui n'y a aucun rayonnement qui arrive sur lui, mais qui interagit avec le champ quantique du vide, et qui sont le déplacement de l'onde et l'anomalie G-2 du spin de l'électron. Et la question qui se pose, bien sûr, est-ce qu'il y a une correspondance entre ces effets? Est-ce qu'on peut comprendre les corrections radiatives comme étant dues uniquement aux fluctuations du vide? Est-ce qu'il faut aussi faire intervenir le champ propre de la particule chargée, la réaction de rayonnement? Quels sont les effets qui nécessitent vraiment une description quantique du champ électromagnétique? Donc ça a été un domaine de recherche extrêmement fructueux. Troisième point, interaction atome-photon, un banc d'essai pour tester des méthodes d'approche théorique. Alors là, il y en a eu plusieurs, de complexité croissante. Les méthodes perturbatives, bien sûr, où on essaie d'aller au-delà des termes d'ordre le plus bas de la théorie des perturbations, où on utilise des techniques un peu plus sophistiquées, comme les opérateurs de projection et la résolvante, pour essayer de procéder à des resommations partielles de la série de perturbations. Une méthode qui est absolument fondamentale dans tout ce domaine, c'est l'évolution de la matrice densité sous l'effet de processus dissipatifs, ce qu'on appelle l'équation pilote pour l'opérateur densité, et dans le cas particulier d'un atome interagissant avec un champ lumineux, c'est ce qu'on appelle les équations de bloc optique, qui généralisent au domaine optique les équations de bloc bien connues de la résonance magnétique. On peut aussi aller plus loin et essayer de développer des modèles qui ressemblent à la théorie de Langevin du mouvement brownien, essayer d'établir des équations de Heisenberg, Langevin. On a une équation de Heisenberg pour les opérateurs atomiques, avec un terme supplémentaire qui décrit le bruit associé à l'interaction avec le réservoir. Il y a bien sûr aussi le formalisme de l'atome habillé, où on considère l'atome et les photons radiofréquences ou optiques qui interagissent avec lui comme un système global décrit par un Hamiltonien indépendant du temps. L'avantage d'une approche de ce type, c'est qu'elle permet d'utiliser la théorie des perturbations indépendantes du temps et qu'elle permet d'introduire des vrais niveaux d'énergie, et non pas des niveaux d'énergie fictifs, qui sont les niveaux d'énergie de l'atome habillé. Enfin, plus récemment, il y a une méthode extrêmement prometteuse, extrêmement puissante, qui est ce qu'on appelle les fonctions d'onde stochastiques, où on essaye de décrire l'évolution d'un système quantique soumis à des processus dissipatifs comme constitué d'une suite de périodes d'évolution cohérentes, où l'évolution est décrite, où l'état du système est décrit par une fonction d'onde, et non pas par une matrice densité, séparée par des sauts quantiques qui se produisent à des instants aléatoires, dont on peut calculer la probabilité d'occurrence. Interaction atome-photon, des systèmes simples pour tester les théories fondamentales. D'abord, les corrections radiatives. C'est en effet, ça, un point important, c'est la découverte du fait que, par exemple, les végétas 2s, 1,5 et 2p, 1,5 de l'hydrogène, qui sont prévus dégénérés par l'équation de Dirac, ne le sont pas, et séparés par une distance qu'on appelle le déplacement de l'onde, c'est cette découverte par l'onde, et la découverte aussi du fait que le facteur G d'un électron n'était pas égal à 2 par couche, qui ont constitué vraiment le point de départ de l'électrodynamique quantique, qui est le prototype, disons, des théories des champs quantiques, des théories de champs de jauge modernes. C'est vraiment le début de la physique théorique moderne. Il y a eu, bien sûr, avec le développement de la spectroscopie et des techniques de manipulation, des mesures de plus en plus précises de ces corrections radiatives. Par exemple, l'anomalie G-2 est mesurée maintenant sur un électron unique piégé avec près de 12 chiffres significatifs. La spectroscopie laser s'est révélée également un outil très puissant pour étudier les déplacements de l'onde et pour mesurer en particulier la constante de Rydberg. Il y a eu des systèmes exotiques abordés comme le positronium, électron plus, électron moins, le muonium, les ions multichargés, Et à ce moment-là, comme la distance entre, par exemple, le muon et le proton dans un atome exotique est beaucoup plus petite que la distance entre l'électron et le noyau, on peut être sensible à d'autres interactions. Et bien sûr, les mesures de constantes fondamentales, la constante de Rydberg, la constante de structure fine, avec toute une série de méthodes nouvelles pour ces mesures. Exemple, la non-conservation de la parité en physique atomique. Comme vous le savez, il y a eu un développement majeur dans la physique théorique qui a été l'unification des interactions électromagnétiques et faibles, et on s'est rendu compte que le noyau et les électrons d'un atome pouvaient échanger non seulement un photon, mais également un boson neutre vectoriel qu'on appelle le Z0. Et l'interférence entre l'échange d'un photon et l'échange d'un boson vectoriel neutre conduit à une violation de la parité droite-gauche dans les atomes. C'est-à-dire que si on prend une expérience de physique atomique et qu'on en prend l'image dans un miroir, l'image dans un miroir ne satisfait pas aux lois de la physique. Alors, en 1974, Claude et Marianne Boucher ont suggéré d'essayer de détecter optiquement un tel effet sur des transitions interdites d'atomes lourds. Pourquoi interdites? C'est pour réduire l'importance de l'amplitude électromagnétique par rapport à l'amplitude faible, de manière à faire ressortir davantage l'amplitude faible. Et pourquoi lourd? C'est parce qu'un atome lourd, les atomes sont plus près du noyau, et comme l'interaction par échange d'un boson vectoriel neutre est à très courte portée, l'effet est amplifié par un facteur Z cube. Cet effet a été observé en 1982, pour la première fois à Paris, dans le groupe de Marianne Bouchard, et puis il a été amélioré de manière significative par Carl Wieman à Boulder en 1997. Et maintenant, cet effet est mesuré à mieux qu'un pour cent. Également, d'autres atomes lourds, y compris même le francium, certains groupes envisagent d'étudier la non-conservation de la parité dans de tels systèmes. Autre test des interactions fondamentales, plusieurs équipes essayent de rechercher des moments dipolaires électriques sur des atomes neutres, sur des atomes. Pourquoi? Parce que si on observe un tel effet, ça veut dire que la symétrie de renversement du temps n'est pas valable. On essaye donc de tester la symétrie de renversement du sens du temps, et il se trouve que si un effet était observé, il permettrait de tester les théories au-delà du modèle standard. Autre ligne de recherche intéressante, test de la symétrie matière-antimatière. Les mesures, par exemple, très précises des propriétés de particules chargées dans des pièges permettent de comparer de manière très précise l'électron et le positron, le proton et l'antiproton, et de voir s'ils ont la même masse et le même rapport valeur moyenne, valeur absolue de E sur M. Très récemment, deux équipes au CERN, deux groupes de collaboration, ont permis d'observer pour la première fois des atomes anti-hydrogène formés d'antiprotons et d'un positron. Test de la relativité restreinte et générale. Comme vous le savez, il y a plusieurs projets d'expérience spatiale, expérience ACES, Atomic Clock Ensemble in Space, la théorie, le programme ITER, où on envisage de placer sur la station spatiale, ou sur des satellites, des horloges à atomes froids, ou des interféromètres à atomes froids, pour tester de manière beaucoup plus précise, mesurer de manière beaucoup plus précise le déplacement vers le rouge d'Einstein, ou pour essayer d'observer des effets comme l'effet de Lenz-Tiring. Il y a aussi une expérience originale qui est poursuivie à Paris depuis quelques années, qui est la recherche d'une dérive éventuelle des constantes fondamentales. Par comparaison des fréquences d'une horloge à rubidium et d'une horloge à césium au niveau de 10-15, 10-16, on peut essayer de détecter une variation éventuelle de la constante de structure fine alpha qui est prévue par certains modèles cosmologiques. Alors, on peut se demander comment se fait-il que la physique atomique permette de contribuer à ces tests alors que les énergies qui sont mises en jeu sont toutes petites et qu'on n'a pas du tout, on n'a pas l'impression d'être à la frontière de la physique qui est avec les grands accélérateurs de particules. Alors là, ça vaut quand même quelques remarques. D'abord, la faiblesse des énergies qui apparaît en physique atomique est compensée par l'extrême précision des mesures. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une mesure de G-2 à 10-12. Deuxièmement, la physique atomique utilise des systèmes simples. Par exemple, l'atome d'hydrogène, c'est un système dont on peut calculer toutes les propriétés de manière extrêmement poussée. Et les techniques de calcul, par exemple, d'électrodynamique quantique pour G-2 vont calculer les diagrammes de Feynman jusqu'à des ordres extrêmement élevés. Il y a aussi le fait que la physique atomique fournit des tests des théories fondamentales dans des domaines d'énergie complètement différents de ceux qui sont explorés par les expériences de haute énergie, également de transfert d'impulsion, donc d'échelle de distance beaucoup plus grande. On teste les interactions fondamentales à des échelles de distance qui ne sont pas les mêmes que celles fournies par les expériences de haute énergie. Je donne ici un exemple. Le noyau des atomes est constitué de quarks, et le calcul de la violation de la parité fait intervenir les constantes de couplage CD et CU des quarks D et U. Et les résultats de haute énergie, par exemple dans l'expérience du Schlack, donnent pour ces deux constantes fondamentales ce domaine d'existence entre ces deux lignes rouges. Les expériences de violation de la parité sur le césium donnent ces deux lignes vertes. Et vous voyez que clairement que les deux domaines d'incertitude ne sont pas les mêmes, ils se croisent, et donc ça permet de réduire le domaine dans lequel ces constantes peuvent se trouver. Il y a aussi, bien sûr, la mécanique quantique a pu être aussi testée de manière extrêmement précise par des expériences d'optique et de physique atomique. Il y a bien sûr le test de la validité des inégalités de Bell. Je crois que l'inégalité de Bell constitue le développement majeur qu'a subi la mécanique quantique depuis sa création au cours des années 20. Et les expériences donc de test des inégalités de Bell ont permis d'éliminer les théories à variables cachées locales en étudiant les corrélations entre les polarisations d'une paire de photons émis dans une cascade radiative ou maintenant dans une conversion paramétrique. C'était toute une série de groupes aux États-Unis, en France, à l'Institut d'optique à Orsay, dans le groupe de Alain Spee, et maintenant dans le groupe de Zeilinger à Vienne. Autre test important, ça a été le caractère quantique du rayonnement. Est-ce que vraiment les photons sont essentiels? Est-ce qu'il est nécessaire de décrire quantiquement le champ électromagnétique pour comprendre les phénomènes physiques? Alors il y a une série d'essais très clairs qui ont montré la nécessité d'un traitement quantique, comme le dégroupement de photons, observé par Kimball et Mandel, le fait que quand un photon est émis par un atome et qu'il passe dans un interféromètre à deux bras, s'il est détecté là, il ne peut pas être détecté là, et réciproquement. Plus récemment, dans des expériences d'électrodynamique quantique en cavité, en particulier dans le groupe de Serge Haroche, la détection sur les oscillations de Rabi, des faits qui montrent clairement le fait que le nombre de photons dans une cavité est discret, il ne varie pas de manière continue. Autre domaine de recherche qui a été extrêmement actif, c'est de comprendre les fluctuations introduites par la mécanique quantique. Quelle est leur origine et quelles sont les limites que ces fluctuations imposent à la sensibilité des mesures. Et une démarche qui a été extrêmement fructueuse, ça a été de se poser la question, est-ce qu'on peut aller au-delà de ces limites? Est-ce qu'on peut essayer de les contourner? Et là, il y a des idées extrêmement astucieuses consistant à comprimer des états quantiques dans une certaine direction, qui est celle relative à l'observable qu'on mesure, au prix évidemment d'une augmentation de l'incertitude pour une autre observable. Et ça a été par exemple le cas des états comprimés qui ont permis de réduire le bruit de photons de manière sensible. Les interactions atomes-photons, un cadre simple pour étudier les effets d'ordre supérieur. Alors là, il s'agit des processus multiphotoniques. Les processus multiphotoniques ont été observés pour la première fois dans le domaine des radiofréquences, et en particulier, c'est à Paris, en particulier par Bernard Cagnac et Jacques-Michel Vinter, que les premières études vraiment sérieuses de processus multiphotoniques ont pu être faites. Puis, ces effets ont une interprétation extrêmement simple en termes de loi de conservation, et plusieurs approches théoriques ont été développées pour les analyser, comme les opérateurs de projection, l'atome habillé. Puis, avec le développement des lasers, ces effets sont apparus dans le domaine optique. Des transitions multiphotoniques entre deux états discrets du spectre optique ont été observés, puis entre un état du spectre discret et le continuum, c'est par exemple le cas de l'ionisation à plusieurs photons, puis entre deux états du continuum, c'est l'ionisation au-dessus du seuil, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait générer des harmoniques d'ordre très élevé, transformer par exemple un photon, faire absorber à l'atome 221 photons de même fréquence et faire apparaître l'harmonique 221 qui tombe alors voilà, dans le domaine nanométrique, et où visiblement la théorie des perturbations n'est plus suffisante pour analyser ce qui se passe. Et puis, grâce à des idées très astucieuses, comme l'idée de qu'on veut amplifier une impulsion très brève, d'abord de l'étirer, de l'amplifier quand elle est étirée pour ne pas démolir les composants optiques qui amplifient l'impulsion, puis de recomprimer l'impulsion, c'est ce qu'on appelle la technique de sharp pulse amplification, qui a été développée en particulier par Gérard Moreau, un Français qui travaille à Michigan, à Arbor. Maintenant, il est possible d'avoir des montages de tables dans des laboratoires universitaires qui atteignent 10 puissance 14, 10 puissance 15 watts, et qui permettent d'aborder toutes les séries d'effets nouveaux. Évidemment, l'optique non linéaire est un domaine de recherche complètement vaste et aux applications innombrables. Juste une liste des processus multiphotoniques à deux photons qui jouent un rôle particulièrement important. D'abord, l'absorption saturée, où l'atome interagit avec un photon pompe et un photon sonde, et qui permet de s'affranchir de l'effet Doppler, qui a permis en particulier d'observer pour la première fois le doublé de recul. L'absorption de deux photons sans effet Doppler, avec conservation de l'impulsion globale, élimination de l'effet Doppler et du recul, qui a été en particulier étudié de manière très détaillée dans le laboratoire de Bernard Cagnac, avec le regretté Gilbert Grimbert, François Birabin, Elisabeth Jacobino et d'autres chercheurs. La conversion paramétrique, qui permet de générer des paires de photons corrélés, qui se révèlent maintenant extrêmement utiles pour toutes les expériences d'information quantique. Et puis, j'insiste en particulier sur le dernier effet, l'effet Raman stimulé, qui est un effet qui est extrêmement utile pour tous les problèmes de manipulation d'atomes sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir en détail dans la suite du cours. Interaction atome-photon, maintenant, un outil pour manipuler les atomes. Contrôle de la polarisation des atomes. À température ordinaire, les atomes ne sont pas polarisés. Il y en a autant d'atomes avec leur spin dans une direction que dans la direction opposée. Les méthodes de pompage optique, qui consistent à transférer des moments cinétiques de photons polarisés vers des atomes, ont permis de polariser à 80 à 90% des échantillons atomiques. Contrôle de l'impulsion maintenant des atomes par transfert d'impulsion, de quantité de mouvement de photons vers des atomes dans des cycles absorption-émission spontanée. On exerce ce qu'on appelle une force de pression de radiation sur les atomes, ou dans des cycles absorption-émission induite, ce qu'on appelle des forces dipolaires, redistribution de photons, qui permettent de manipuler de manière extrêmement efficace la vitesse et la position d'un atome. Il y a eu des ralentisseurs Zeeman, des dispositifs permettant de stopper un jet atomique sur des distances de l'ordre du mètre, partant d'un kilomètre par seconde et arrivant à zéro sur une distance de l'ordre du mètre. Ça a été vraiment un développement absolument décisif pour le développement de ce domaine de recherche, réalisé par mon collègue Bill Phillips, que vous connaissez bien, et Hal Metcalf dans les débuts des années 80. Le refroidissement laser Doppler, qui permet de refroidir des atomes en utilisant un déséquilibre dépendant de la vitesse entre deux forces de pression de radiation opposées. Mécanisme qui a été proposé dès 1975 par Hensch, Schallow, Weinland et Demelt. Le refroidissement Sisyphe, que nous avons en particulier développé au laboratoire dans notre équipe à Paris, qui utilise des déplacements lumineux et des taux de pompage optique modulés spatialement et corrélés de manière que l'atome en mouvement gravisse sans arrêt des collines de potentiel comme les héros de la mythologie grecque. Méthode qui permet d'atteindre le microkelvin de manière courante. Le refroidissement sub-recul, évidemment, qui est également un domaine qui a été étudié intensivement dans notre équipe et qui permet de descendre en dessous de l'énergie cinétique associée au recul provoqué par l'émission ou l'absorption d'un seul photon. Et toutes ces méthodes permettent d'arriver donc à des températures du microkelvin, voire du nanokelvin. Alors, non seulement on essaye de refroidir les particules, mais on essaye de les piéger. Piégeage de particules chargées, je pense que c'est ce domaine de recherche qui a été vraiment l'initiateur de tous les développements qui apparaissent maintenant. Et je me souviens que c'est, je crois, en 80, 82, 83 et 84, que j'avais fait 4 cours successifs, ici au Collège de France, sur les méthodes de piégeage, de détection des particules chargées, en particulier développées par l'équipe de Demelt, aux États-Unis, à Seattle, en utilisant des pièges qu'on appelle des pièces de Penning et de Paul, que j'ai étudié très en détail dans ces cours-là, il est possible de piéger un électron unique, un proton unique, et d'étudier leurs propriétés. De mesurer de manière extrêmement précise le rapport Q sur M, G-2, et c'est sur des ions piégés, des ions uniques piégés, qu'il a été possible pour la première fois d'observer des sauts quantiques, un comportement de type saut quantique sur la lumière émise, la lumière de fluorescence émise par un seul ion piégé. Et c'est cette observation, la compréhension de ces phénomènes qui a été un grand stimulant pour développer des nouvelles approches théoriques comme la fonction d'Élé, les fonctions d'onde Monte Carlo, les fonctions d'onde stochastiques qui continuent à se développer actuellement, même dans le domaine de la condensation de Bose-Einstein. Le piégeage des atomes neutres est plus difficile parce que les atomes neutres n'ont pas de charge et on ne peut pas exercer des forces électriques sur eux. Il faut coupler leur moment magnétique ou leur moment électrique à des gradients de champ électrique ou de champ magnétique. Mais néanmoins, il est possible de les piéger avec des lasers. On peut les piéger soit au foyer d'un faisceau laser, soit dans des réseaux optiques. On peut aussi utiliser des pièges magnéto-optiques qui, suggérés par Jean Dalibard dans les années 86, utilisent quelque chose qui ressemble un petit peu au refroidissement Doppler, mais c'est un déséquilibre entre deux forces de pression de radiation opposées, mais qui, au lieu de dépendre de la vitesse, dépend même de la position à cause d'un gradient de champ magnétique qui fait déplacer l'effet Zeeman. Depuis le développement de la condensation de Bose-Einstein, on utilise de plus en plus maintenant des pièges magnétiques sans lumière, où on piège des atomes dans des gradients spatiaux de champ magnétique. Évidemment, dans tout ce domaine de recherche, les puits pour atomes neutres sont très peu profonds, de l'ordre du millikelvin en unité de température, et pour les piéger, il faut partir d'atomes très froids, d'où l'importance de combiner le piégeage avec le refroidissement. Enfin, interaction atome-photon, moyen simple pour préparer des états quantiques intéressants. Je pense que c'est dans le domaine du pompage optique et des méthodes optiques qu'ont été développées au début des méthodes très diverses pour préparer ce qu'on appelle des superpositions linéaires d'état et pour montrer tout l'intérêt, toute l'importance de ces superpositions d'état. Il y a eu toute une série d'expériences qui ont montré qu'on ne pouvait pas décrire un ensemble d'atomes uniquement par les populations des niveaux d'énergie et qu'il fallait tenir compte en plus des relations de phase entre les coefficients du développement de la fonction d'onde, ce qu'on appelle les éléments non diagonaux de la matrice densité, ce qu'on appelle aussi les cohérences. Les méthodes optiques ont permis de préparer et de détecter ces superpositions d'état. Il y a toute une série d'effets qui ont été étudiés de manière très détaillée, comme les résonances de croisement de niveau ou l'effet Handle, les battements quantiques, la modulation de la fluorescence, l'excitation à lumière modulée, les transferts de cohérence, le piégeage cohérent de population et plus récemment les cohérences faciales. Ces superpositions d'état peuvent également être étendues à deux atomes, deux systèmes différents. On peut prendre des superpositions d'état de deux systèmes différents. Et on peut préparer à ce moment-là des superpositions d'état de deux systèmes différents qui ne peuvent pas être factorisées sous forme d'un produit d'un état du système 1 par un état du système 2, et sur ce qu'on appelle les états intriqués qui jouent un rôle fondamental en information quantique. Par exemple, état intriqué de deux photons, d'un photon et d'un atome, de deux atomes, et maintenant état intriqué de plusieurs atomes, de plusieurs photons. Et ces états-là sont, si les deux atomes ou les deux systèmes qui sont intriqués sont séparés par une distance qui devient importante, ils sont très sensibles à la dissipation, et l'étude de la dissipation de ces états intriqués est ce qu'on appelle maintenant la décohérence. Les applications des effets d'interférence quantique sont extrêmement nombreuses et importantes. Magnétométrie, mesure de champ magnétique très faible. Battements quantiques, spectroscopie résolue dans le temps, par exemple toute la chimie maintenant utilise les battements quantiques, interférométrie atomique, interférence entre deux ondes de matière, refroidissement type recul, qui utilise des phénomènes d'interférence quantique, par exemple pour le piégeage cohérent de population. Il y a tout un domaine de recherche nouveau qui est apparu, qu'on appelle le contrôle cohérent, où on essaye d'orienter une réaction chimique dans un sens ou dans l'autre, en jouant sur les phases relatives de plusieurs radiations qui excitent la molécule ou l'atome. Et ceci est également extrêmement prometteur. Et bien sûr aussi, l'information quantique qui utilise, disons, des superpositions d'état pour réaliser des opérations de manière beaucoup plus rapide qu'avec un ordinateur classique. Autre type de système intéressant que les méthodes optiques permettent de réaliser, c'est ce qu'on appelle maintenant les fluides quantiques, les gaz quantiques dégénérés. Là, il y a eu des développements absolument spectaculaires, comme l'observation de la condensation de Bose-Einstein sur des systèmes gazeux, où les interactions sont beaucoup plus faibles que dans la matière condensée, la réalisation d'ondes de matière, de lasers à atomes, l'éventualité maintenant, la possibilité que des condensats moléculaires ont été observés, évidemment, les gaz de famille dégénérée et l'espoir d'observer sur des systèmes de ce type une transition Bardeen-Copper-Schlieffert. L'intérêt de toutes ces études, c'est que des gaz quantiques dégénérés, où les distances entre atomes, tout en étant petites devant la longueur d'onde de Debye, deviennent grandes devant les portées d'interaction, permettent d'analyser l'effet des interactions de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus complète, et permettent donc de faire une analyse quantitative des phénomènes beaucoup plus développée quantitative de la matière condensée. Et ceci explique également que la physique atomique actuellement développe des contacts extrêmement fructueux et soutenus avec la physique de la matière condensée. J'en donne deux exemples. Essayer de comprendre ce qu'est la superfluidité et comment la caractériser. Et par exemple, une autre expérience spectaculaire qui a été réalisée par Emmanuel Bloch il y a quelques mois, l'observation d'une transition superfluide isolant une mode dans un réseau d'atomes, dans un réseau de condensats Bose-Einstein piégé dans un réseau optique. Voilà, donc j'ai fini ma première partie de cette première séance par cette revue très rapide, et je voudrais maintenant passer à la deuxième, quelques idées directrices pour décrire l'effet des interactions atomes-photons. Il me semble que le plus souvent dans une expérience, on peut distinguer trois étapes. On prépare le système, on l'excite, on le laisse évoluer librement ou en présence d'interactions, puis on le détecte. Alors, on peut se poser des questions quand on essaie d'analyser un phénomène physique. Est-ce qu'il rentre dans ce cadre? Et si oui, quelles sont les phases d'excitation, d'évolution, de détection? Est-ce que les trois étapes sont indépendantes? Est-ce qu'on peut ajuster les vitesses de variation de ces trois étapes de manière indépendante? Est-ce que le système interagit avec des réservoirs? Est-ce qu'il y a une dissipation? Est-ce que l'évolution est réversible, style précession de Rabi, ou irréversible, style décroissance exponentielle? Quelles sont les échelles de temps associées aux divers processus? Est-ce qu'il y a plusieurs chemins qui conduisent de l'état initial à l'état final? Et si oui, quels sont les effets d'interférence quantique auxquels ils peuvent donner naissance? Préparation, excitation, la première étape. Disons qu'on regarde les premières expériences de vie atomique et moléculaire. Cette préparation utilise essentiellement une sélection magnétique ou électrique par effet Stern-Gerlach sur des jets atomiques et moléculaires. Ça, c'est toute l'équipe de Rabi, d'Isidore Rabi, qui a fait ce type de recherche. Autre exemple, si on a un système en équilibre thermodynamique, un échantillon de matière condensée, les populations des niveaux d'énergie sont proportionnelles à exponentielle moins E sur KT, facteur de Boltzmann, et deux niveaux d'énergie ont des populations différentes avec ce rapport de population, rapport de Boltzmann. Et c'est le cas usuel des expériences sur des échantillons de matière condensée. Et il y a aussi, bien sûr, l'excitation par un champ électromagnétique, qui est le cas qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il faut tout de suite se poser la question, quelles sont les lois de conservation? D'abord, il y a la loi de conservation du moment cinétique. D'abord, excusez-moi. D'abord, la Hamiltonienne d'interaction atome-rayonnement est invariante par plusieurs opérations, par translation dans le temps, par translation dans l'espace, par rotation, et ceci entraîne qu'il y a des constantes du mouvement, qui sont l'énergie totale, l'impulsion totale, le moment cinétique total. Et conséquence, il y a donc des règles de sélection très utiles pour les phases d'excitation et de détection. Par exemple, la polarisation. Les photons ont un moment cinétique qui dépend de la polarisation. Si, par exemple, je prends un axe Z, et si je prends un faisceau lumineux se propageant le long de l'axe Z avec une polarisation circulaire droite ou gauche, les photons ont un moment cinétique JZ le long de cet axe qui vaut plus H-bar ou moins H-bar. Si on prend un photon polarisé linéairement, donc se propageant nécessairement perpendiculairement à l'axe Z, les photons ont un moment cinétique nul le long de l'axe Z. Alors, si on prend maintenant une transition atomique où l'atome passe d'un sous-niveau Zeeman Mg à un sous-niveau Zeeman Me, le moment cinétique gagné par l'atome dans cette transition provient du photon absorbé. S'il absorbe un photon pi, delta méga 0, il va nécessairement de mg à m égale mg. S'il absorbe un photon sigma plus, il va de mg à m égale mg plus 1, et à m égale mg moins 1 si le photon est sigma moins. Ces règles de sélection ont été formulées la première fois par Rubinowitz, un physicien polonais, et je crois qu'elles ont joué un rôle fondamental dans les idées qu'a développées Alfred Kastler dans sa thèse de doctorat, puis dans sa suggestion du pompage optique pour le développement des méthodes optiques. C'est ces règles de sélection qui ont été absolument cruciales. Deuxième point que je voudrais, je reviendrai plus tard sur les règles de sélection associées à la conservation de l'impulsion. Je viens maintenant à un deuxième point qui est quelle est l'influence de la largeur spectrale du faisceau excitateur, faisceau lumineux ordinaire ou faisceau laser. Supposez d'abord que j'ai une excitation continue, une lumière d'intensité constante, mais avec un spectre large, delta nu très large, très grand. Je préciserai très grand par rapport à quoi dans un petit moment. Quelle est la durée du processus élémentaire d'excitation? Si on calcule la fonction de corrélation du champ électrique incident, on trouve que le temps de cohérence, le temps de corrélation, est 1 sur delta nu, l'inverse de la largeur spectrale. Une autre manière de comprendre ce résultat, c'est de dire que si on se représente le faisceau incident comme une succession de paquets d'ondes répartis uniformément dans le temps, chaque paquet d'ondes a une dispersion temporelle liée à la superposition d'ondes de fréquences différentes, delta nu, et le temps que met chaque paquet d'ondes à passer sur l'atome est 1 sur delta nu. Donc delta nu peut être considéré vraiment comme la durée d'un processus élémentaire d'excitation. Alors là, je vous mets en garde contre une confusion qui est faite souvent. Il ne faut pas confondre le temps de corrélation d'un processus au temps de relaxation, c'est le temps moyen au bout duquel le processus se produit. Si vous envoyez un faisceau lumineux constitué de paquets d'ondes de largeur delta nu sur un atome, chaque paquet d'ondes met un temps 1 sur delta nu quand il passe sur l'atome, mais la probabilité que l'atome soit excité, c'est 1 sur t excitation, et t excitation est beaucoup plus grand que 1 sur delta nu. Donc il ne faut pas confondre le temps de corrélation et le temps de relaxation. Alors, si la durée d'excitation 1 sur delta nu est suffisamment faible devant tous les autres temps caractéristiques d'évolution de l'état excité, période de l'armance et alpha magnétique, durée de vie radiative, s'il y a de l'émission spontanée, à cela, on peut considérer l'excitation optique comme instantanée. Il y a donc possibilité de séparer la phase d'excitation de l'évolution et de la détection. Il est possible aussi, en général, de décrire l'excitation en termes de taux de transition et non pas en termes d'oscillation de Rabi. On a une probabilité par unité de temps de monter dans l'état excité. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet de cohérence. C'est qu'en effet, le paquet d'ondes incident sur l'atome a des composantes de fréquences différentes qui sont cohérentes sur chaque paquet d'ondes. Et par conséquent, comme la largeur spectrale est importante, l'atome peut être excité dans une superposition linéaire de sous-niveaux d'énergie différents, pourvu que la séparation de ces sous-niveaux soit plus petite que delta nu. Et à ce moment-là, c'est là qu'on comprend, par exemple, les battements quantiques. On peut comprendre une excitation percussionnelle instantanée, cohérente de plusieurs niveaux. Évidemment, on peut aussi utiliser une excitation en impulsion, une vraie impulsion, en ray large. Et à ce moment-là, le système est excité en un temps très bref, 1 sur delta nu, un instant bien déterminé, qui est l'instant où on applique l'impulsion. Si maintenant on prend une excitation en ray étroite, si delta nu est tout petit, à ce moment-là, la durée 1 sur delta nu du processus d'excitation est extrêmement longue. Elle prépare en général l'atome dans un niveau d'énergie bien défini, qu'on peut choisir en balayant la fréquence du faisceau incident. On fait à ce moment-là une excitation sélective d'un niveau excité. Et à ce moment-là, évidemment, les trois phases d'excitation, évolution, détection ne sont plus bien séparées. Et pour essayer de le comprendre, cette idée, moi j'aime bien l'image d'un atome qui est soumis à une onde laser très monochromatique, donc on a un paquet d'ondes très long, qui passe sur l'atome, qui met en mouvement forcé le dipôle atomique, tout le temps du passage, et ce dipôle atomique rayonne à son tour dans l'espace un rayonnement de même fréquence que le rayonnement qui le met en mouvement, et on peut comprendre de cette manière la diffusion Rayleigh. À ce moment-là, bien sûr, excitation, évolution et détection ne sont plus séparés. Cela, une description du système en termes de taux de transition n'est plus possible. Il faut absolument tenir compte des cohérences entre l'état excité fondamental et il faut à ce moment-là utiliser des équations de bloc optique et introduire spécifiquement les cohérences optiques sigma EF entre l'état excité et l'état fondamental F. Attention, ceci ne doit pas faire croire qu'une excitation en raie étroite ne peut jamais être décrite en termes de taux de transition. Elle peut l'être dans certains cas, lorsque l'état auquel conduit l'excitation a une certaine largeur, gamma, qui est par exemple le cas d'une excitation d'un niveau excité de largeur gamma. Et si la fréquence de Rabi oméga qui caractérise l'excitation est suffisamment faible devant gamma. En effet, si la fréquence de Rabi est très faible devant gamma, si le couplage est très faible devant gamma, on peut considérer qu'on a un couplage entre l'état initial et un état final qui est un continuum avec un état par intervalle d'énergie gamma, donc une densité d'état 1 sur gamma. Et l'application de la règle d'Hoare de Fermi montre à ce moment-là que la probabilité d'excitation, petit gamma, est le carré de la perturbation, oméga carré, divisé par gamma, où gamma est la largeur du niveau supérieur. Par contre, si oméga est grand devant gamma, à ce moment-là, la précession de Rabi a le temps de se produire entre l'état excité et l'état fondamental, elle peut se produire plusieurs fois avant d'être amortie par l'émission spontanée. Et c'est par exemple cette distinction oméga plus petit que gamma, oméga plus grand que gamma, qui est la distinction entre les régimes de couplage faible et fort en électrodynamique quantique en cavité. Phase de détection maintenant, même remarque pour la phase d'excitation. Détection à bande large, on observe la fluorescence avec un détecteur rapide à bande large, où on détecte au moyen d'un faisceau sonde à bande large, éventuellement impliqué en impulsion ultra-brève, donc la détection est instantanée. Ou on peut faire une détection en bande étroite, on peut mettre un filtre interférentiel devant le photomultiplicateur qui détecte la lumière émise, ou on peut utiliser un faisceau sonde monochromatique dont on balaye la fréquence. Enfin, évolution temporelle intermédiaire, cette évolution est peut-être de divers types, elle peut être due à l'existence d'un champ magnétique statique qui fait tourner les spins, précession de l'armor, ou un couplage interne comme l'interaction spin-orbite, le couplage hyperfin. Elle peut provenir de l'action d'un champ électromagnétique qu'on applique à l'état excité, transition de radiofréquence et de micro-ondes, action d'un champ laser, par exemple, on fait une excitation en échelon. Processus, bien sûr, de relaxation, ça c'est important, relaxation radiative par émission spontanée, ou collision avec d'autres atomes. Et, évidemment, la question qu'on peut se poser, est-ce que, par exemple, pour étudier la dissipation, est-ce que pour étudier les processus de relaxation, est-ce qu'on peut calculer la relaxation, les taux de relaxation, comme s'il n'y avait pas d'excitation, comme s'il n'y avait pas d'excitation optique? Ça, c'est un problème extrêmement subtil, et sur lequel, disons, il faut être prévenu. Quels sont les temps caractéristiques? C'est là que la discussion des temps caractéristiques est importante. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord le taux C, c'est le temps de corrélation des mécanismes de relaxation. Par exemple, si c'est des collisions, c'est le temps de collision. Si c'est l'émission spontanée, c'est le temps de fluctuation, temps de corrélation des fluctuations du vide qui est de l'ordre de la période optique. Deuxième temps, le temps de relaxation, TR. En général, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, TR est beaucoup plus grand que TC, TOC. Et il y a bien sûr 1 sur oméga, qui est la période de Rabi associée à l'interaction atome-laser. Alors, premier régime, TOC très court. C'est par exemple le cas de l'émission spontanée. TOC qui est de l'ordre de la période optique, est toujours petit devant le temps de Rabi. À ce moment-là, le temps d'un processus élémentaire de relaxation est tellement court que pendant ce temps, l'interaction atome-laser n'a pas le temps de s'établir. Donc, quand le système subit le processus de relaxation, il ne sent pas le champ laser. Donc, on peut calculer le taux de relaxation comme s'il n'y avait pas de champ laser. On peut donc prendre les équations de relaxation de l'atome nu, et changer de base, par exemple, pour passer à l'atome habillé, et en prenant les mêmes temps de relaxation que ceux qui existent pour la relaxation de l'atome nu. Par contre, si on a TOC très grand devant sur oméga, pendant le temps de corrélation de la relaxation, l'interaction atome-laser a le temps de se produire, et la relaxation s'effectue vraiment entre niveaux tenant compte de cette interaction, c'est-à-dire entre niveaux habillés. À ce moment-là, il faut calculer l'effet de relaxation dans la base habillée. Voilà, alors, je voudrais, pour conclure cette première séance, je tâcherai de faire donc deux séances chaque fois pendant six semaines, je tâcherai de ne pas dépasser une heure, 50 minutes à une heure, et je m'arrêterai une demi-heure entre les deux. Donc, je rappelle que le site web où peuvent être trouvées toutes les notes de cours des années précédentes, depuis 1973 jusqu'à maintenant, y compris aussi celles de cette année, le site web est indiqué ici. Je signale aussi qu'une grande partie des calculs comme j'ai fait un cours de revue, je ne rentrerai pas dans le détail des calculs, et s'il y a des calculs particuliers, je référerai à la plupart d'entre eux qui sont contenus dans un livre écrit avec Jacques Duporoc et Gilbert Grimbert, Processus d'interaction entre photons et atomes, interédition édition du CNRS 1988, livre qui a été traduit en anglais et publié par Wiley, et référence que je désignerai par pays dans les notes de cours. Je voudrais simplement maintenant donner les sujets que j'aborderai dans les diverses séances. Aujourd'hui, donc, après cette séance d'introduction générale, la deuxième séance, je parlerai des méthodes optiques. La semaine prochaine, je parlerai de la première séance de perturbation des atomes par le rayonnement, utilisation récente de ces perturbations, et dans la deuxième séance, un nouvel éclairage sur les corrections radiatives. Le 4 novembre, je parlerai des processus multiphotoniques dans le domaine processus multiphotonique, d'abord, première séance dans le domaine radiofréquence, ensuite dans le domaine optique, avec les développements les plus récents sur les lasers de puissance et les plasmas relativistes. Le 11 novembre, donc il n'y a pas court. Le 18 novembre, je parlerai des superpositions linéaires d'états, des interférences quantiques et des états intriqués. Le 25 novembre, je parlerai de la manipulation du mouvement des atomes par la lumière, le refroidissement et le piézage des atomes. Et la deuxième séance, les premières applications des atomes ultrafroids hors état gaz quantique dégénéré, c'est-à-dire horloge atomique, mesure de précision, interférométrie atomique. Et le dernier cours, le 2 décembre, donc il y aura en tout 6 séances, donc 12 cours en tout, gaz quantique dégénéré, bosons et fermions, et quelques perspectives ouvertes par les gaz quantiques et dégénérés. Comme vous le remarquez, je ne fais pas de séminaire cette année, je fais 2 cours consécutifs, l'un après l'autre, pour faire un ensemble de séances plus ramassées dans le temps. Et les séminaires seront remplacés par un symposium organisé en commun avec la chaire de physique quantique de Serge Laroche, qui sera pour titre le manipulation d'atomes et de photons, le 16 janvier 2004, toute la journée ici. Et ce symposium sera dédié à la mémoire de Jean Brossel, qui, vous le savez, est mort au début de cette année. Voilà, je vous remercie pour cette première séance.